Le débat, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. À mi-chemin entre son élection et sa prise de fonction, où en est Barack Obama? Quelles analyses peut-on tirer de ses premières nominations? Que laisse-t-elle présupposer des orientations à venir? Et ce, alors que les États-Unis s'enfoncent dans la crise. Pour répondre à ces questions et plusieurs autres, Dominique Moisy, spécialiste des questions internationales, l'un des membres fondateurs de l'IFRI et auteur de la géopolitique de l'émotion. Bonjour Dominique Moisy.
Bonjour.
Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'American University de Paris. Bonjour Philippe. Et Karim-Émile Bitard, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Karim-Émile Bitard.
Bonjour.
Les choses vont très vite entre la campagne électorale, l'élection de Barack Obama et aujourd'hui où nous nous trouvons à mi-chemin finalement entre l'élection et la prise de fonction. L'Amérique s'est enfoncée comme le reste du monde dans la crise et les uns et les autres sont encore loin d'avoir touché le fond. Est-ce que, Dominique Moisy, vous qui êtes particulièrement sensible aux émotions, votre livre en est la preuve, après l'espoir suscité par l'élection d'Obama, l'Amérique n'est pas en train de plonger dans la peur, peur de la récession, avant même qu'Obama n'ait pris ses fonctions?
La récession n'est pas une peur, c'est une réalité. Pour certains même, il conviendrait de parler de dépression et pas seulement de récession. Je crois que l'Amérique, après la nuit exceptionnelle du 4 au 5 novembre, eh bien, elle souffre. Elle souffre socialement de la réalité économique et elle a raison de s'inquiéter de l'avenir. Et le défi auquel Barack Obama se trouve confronté est un défi exceptionnel. Mais on a un homme exceptionnel face à des circonstances exceptionnelles. Il est beaucoup trop tôt pour savoir, un, quelle sera la part de la politique étrangère dans les priorités du nouveau président, et deux, quelles seront à l'intérieur de cette politique étrangère les vraies priorités, car je crois qu'il ne faut pas oublier un élément décisif, c'est la dictature de l'événement. Quel sera l'événement qui orientera dans une direction ou dans une autre la politique étrangère de Barack Obama? Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut faire preuve d'une extraordinaire modestie, nous ne savons pas ce qui va se passer.
Alors, on va bien sûr parler de tout ce dont on ne sait pas, mais il y a quand même des petites choses qui se dessinent. Dans un premier temps, est-ce que vous pensez les uns les autres que la rapidité avec laquelle se passent les choses aujourd'hui ne fait pas regretter la longueur de l'espace-temps entre le moment de l'élection et la prise de fonction, plus de 2 mois, cette fameuse période de transition? Qui veut répondre, Karim-Émile Bitard?
Alors, en effet, cette longue transition a des raisons historiques. À l'époque, il fallait arriver à cheval, transmettre les résultats à la capitale de chaque État, puis les centraliser à Washington. Il fallait qu'ils fassent le déplacement à cheval pour rejoindre le collège électoral qui vote pour le président. Mais je pense que ça peut également avoir beaucoup d'effets bénéfiques cachés. Ça donne l'occasion d'établir un véritable état des lieux, de faire un véritable bilan, de faire un background check de chacun des nominés aux différents postes. Et c'est peut-être un bienfait. Ça a permis à Barack Obama d'abord de ne pas assumer lui-même dès le 4 novembre tout le poids de cette crise absolument monumentale qui s'abat sur les États-Unis. Ça peut lui donner l'occasion de former une équipe soudée, une équipe efficace qui semble-t-il aujourd'hui réunie démodérés, décentristes et également qui ne déçoit pas totalement l'aile gauche du Parti démocrate. Donc il a réussi à profiter de cette crise pour former une équipe qui est aujourd'hui prête à l'action.
Alors, une équipe dont on connaît quelques noms, pour n'en citer que quelques-uns, Hillary Clinton comme chef de la diplomatie américaine, Robert Gates à la défense, on peut parler là de confirmation puisque c'est un poste qu'il occupe depuis 2006 sous George Bush, et un expert de l'OTAN, James Jones à la sécurité nationale, sans oublier bien sûr Timothy Geithner au Trésor. Commentaire sur ces nominations. On commence avec vous, Philippe Golub.
Je voudrais d'abord souligner le fait qu'il est impossible de séparer la dimension interne et externe de ce qu'on a appelé jusqu'ici dans notre discussion la crise américaine, car la crise américaine n'est pas simplement une crise américaine, il s'agit d'une crise mondiale. S'il est vrai que la crise frappe particulièrement durement les États-Unis et que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation d'urgence sociale, il est tout aussi vrai que la crise est en train de déstabiliser des aires RES entière du monde, que ce soit les pays en voie de développement, les pays émergents ou aussi d'autres grands pays industrialisés. Le Japon vient de tomber encore une fois, dans une très grave récession. Donc, c'est dans ce cadre que il faut voir ce que je pense tente de faire Barack Obama dans ses nominations. Il construit un gouvernement qui, à la fois, est capable de gérer les affaires courantes au niveau des relations internationales, c'est-à-dire les crises de sécurité, Robert Gates, la continuité des opérations dans leur redéploiement en Irak et en Afghanistan, une certaine continuité aussi en politique étrangère par rapport à la politique Clinton des années 90, pour pouvoir s'occuper d'abord de la crise américaine, mais puis après, évidemment, puisque les aspects domestiques et internationaux ne sont pas séparables, les inévitables aspects internationaux du déroulement d'événements qui, effectivement, comme Dominique Moïse l'a dit, ne sont pas prévisibles. Nous sommes dans une configuration tout à fait inédite de la politique internationale aujourd'hui.
Alors, rien n'est prévisible. Dominique Moisy, est-ce que ce qu'on évoque là, la crise, est-ce que tout cela, finalement, met à mal cette volonté affichée depuis le début par Barack Obama de restaurer le leadership américain ?
Alors, je crois qu'il y a ce qui est facile, prioritaire, et qui sera fait tout de suite. C'est restaurer l'image morale des États-Unis dans le monde, la légitimité éthique de l'Amérique et la fermeture de Guantanamo, les garanties que l'Amérique donnera au monde que des dérapages tels Abu Ghraib ne se reproduiront pas.
Prison américaine en Irak.
Voilà, tout cela, je crois, sera fait vite et je pense bien par l'équipe qui est en train d'être mise en place. Ce qui est plus difficile, c'est effectivement de restaurer le leadership américain, non pas seulement à un niveau moral, mais à un niveau politique, stratégique. Et je dirais que la contradiction de l'Amérique aujourd'hui, c'est qu'au moment où elle retrouve sa centralité émotionnelle, elle perd le statut stratégique, géopolitique, qui était le sien. Et l'Amérique se rallie au multilatéralisme, mais en fait, elle n'accepte pas pleinement la multipolarité. Ce qui est difficile pour l'Amérique, c'est d'agir dans le monde quand elle n'est plus seule. Au fond, amener les Américains à s'impliquer dans les affaires du monde était basé traditionnellement sur, entre guillemets, l'exceptionnalisme de l'Amérique. La perception que les Américains avaient de leur rôle quasi religieux. Et en Europe, nous interprétons cela à travers notre cynisme ou notre dénonciation des dérives américaines qui ont d'ailleurs eu lieu au cours en particulier des 8 dernières années. Mais il y a là quelque chose, je crois, de culturellement profond, d'essence religieuse, la mission de l'Amérique dans le monde. Or, comment l'Amérique peut-elle remplir cette mission quand il y a moins d'Amérique et beaucoup plus de Chine, beaucoup plus d'Inde, un peu plus de Russie, etc. C'est là le premier défi. Au fond, elle a l'homme le plus spectaculaire dont on attend le plus au moment où ses moyens sont les plus limités. Objectivement, par l'ampleur de ses déficits, structurellement, par l'existence d'un monde qui est réellement multipolaire.
J'entends, Dominique Moisy, de ce que vous dites, c'est la difficulté d'une part des États-Unis à travailler de façon plus ou moins égale avec des partenaires, et puis cette volonté toujours présente aujourd'hui de quoi se prendre pour les sauveurs du monde, ce dont le monde a un tout petit peu assez. Dominique Moisy.
Juste un point, et je m'excuse de reprendre la parole. La distinction entre multipolarité et multilatéralisme me semble absolument fondamentale. Les Américains reconnaissent aujourd'hui la nécessité d'avoir recours aux institutions multilatérales. Donc ils vont parler positivement des Nations Unies et de toutes les institutions qui dépendent des Nations Unies. Ils acceptent l'ouverture du monde à un G20. Mais ça, ce sont des institutions, ce sont des instruments. Ce qui est beaucoup plus difficile dans leur tête, c'est l'acceptation de la multipolarité, c'est-à-dire l'existence d'un monde qui ne tourne plus autour d'eux exclusivement, mais qui est basé, comme le terme l'indique, sur plusieurs pôles. Au fond, l'Amérique demeure primus inter pares. Mais passer de l'unipolarité à la multipolarité, c'est difficile psychologiquement pour eux.
Les événements sont allés plus vite que les mentalités, c'est cela qu'il faut entendre. Karim Emil Bitar.
Tout à fait. Alors, je crois qu'on a touché un point fondamental qui est celui de l'exceptionnalisme américain. Jusqu'à quel point peut-il renaître ? Un universitaire de renom qui est également militaire à la retraite, qui s'appelle Andrew Bacevich, a publié un livre important l'an dernier qui s'appelle « La fin de l'exceptionnalisme américain ». Il pense que cette hubris auquel on a assisté pendant les dernières années a mis un terme à cette prétention messianiste des États-Unis, prétention qui peut prendre plusieurs formes, des formes de gauche avec un certain idéalisme transnationaliste et des formes de droite avec le wilsonisme de droite des néoconservateurs. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir qu'en sus des noms que vous avez cités, Barack Obama continue également de consulter certaines figures de la réelle politique, comme Brent Scowcroft, l'ancien conseiller de George Bush père, comme Zbigniew Brzezinski, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Carter. Ces gens-là sont toujours considérés comme des grands manitous de la réelle politique. Et paradoxalement, ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus, par exemple, certains des plus fervents partisans d'une résolution rapide du conflit israélo-palestinien et de la création d'un État palestinien. Non pas parce que ce sont de grands humanistes, mais parce qu'ils se sont rendus compte que concrètement, ces questions continuaient de résonner à travers le monde et que si on ne s'y attelait pas dans un laps de temps très court, on risquait de ne plus pouvoir les résoudre, tant les faits accomplis qui se créent sur le terrain au Proche-Orient risquent de compliquer l'avenir. Donc ce qui est paradoxal aujourd'hui et qui peut donner de l'espoir, c'est que cette approche de la réelle politique est en train de revenir à travers les démocrates, à travers Barack Obama. Elle sera bien évidemment teintée d'un certain soupçon d'idéalisme qui est le bienvenu, mais on est sorti en tout cas de ce messianisme et de cette volonté d'affirmer à tout prix un exceptionnalisme américain qui est de plus en plus mal ressenti dans le reste du monde, et l'Occident n'a pas encore pris la mesure suffisamment de cette violence symbolique qui est ressentie. Dominique Moisier en parle dans son livre, qui est ressentie dans le monde arabe et dans une grande partie du monde, cette violence symbolique qu'exerce l'Occident à travers les représentations culturelles qu'il peut projeter des autres. Donc je crois qu'on a trouvé la bonne approche. Reste à savoir si on aura le courage de se consacrer assez vite à ces dossiers chauds qui ne peuvent plus attendre, notamment la question israélo-palestinienne.
Philippe Golub.
Quand on examine les facteurs de la puissance, c'est-à-dire à la fois au niveau subjectif et au niveau dit objectif, et on essaie d'analyser les évolutions du monde contemporain, on s'aperçoit que les États-Unis dominent aujourd'hui de façon incontestable la structure de sécurité internationale. Les dépenses militaires américaines représentent 48% des dépenses militaires mondiales. Si on ajoute à ces dépenses-là les dépenses des alliés des États-Unis, l'OTAN et puis les pays non-OTAN, on arrive à peu près 85% des dépenses militaires mondiales. La Chine représentant à peu près entre 6 et 10% et la Russie un peu moins, 6-7%. On s'aperçoit que cette immense structure de puissance et de sécurité, en fait, aujourd'hui ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que les facteurs de puissance qui, pendant la guerre froide, comptaient énormément et qui même dans l'immédiat après-guerre froide, qui ont constitué l'essentiel de la question de l'unipolarité américaine, aujourd'hui ont beaucoup moins de sens que, effectivement, un monde polycentrique au niveau économique, j'aime pas beaucoup le mot multipolarité, mais polycentrique au niveau économique implique une redistribution à la fois de la puissance et des facteurs de puissance. Une grande guerre entre les grands acteurs, Chine, États-Unis, Russie, États-Unis, est inconcevable. Mais d'autres formes de lutte, je ne partage pas votre opinion que l'exceptionnisme américain est nécessairement mort ou que l'unilatéralisme américain soit nécessairement mort. Je pense que la crise elle-même peut engendrer, je ne suis pas en train de dire qu'elle va engendrer, mais peut engendrer, même sous des dirigeants exceptionnels, des pulsions protectionnistes, des pulsions de repli, des aggravations du nationalisme chez les uns et les autres, d'ailleurs pas seulement aux États-Unis, conduisant à une fragmentation du système international assez grave. Je pense donc qu'il faut faire attention aux dynamiques qui iraient dans le sens contraire d'une pacification des rapports. Il est possible que les rapports soient pacifiés, mais il est possible aussi que les luttes économiques intensifient la fragmentation du monde.
Alors, repli possible de l'Amérique sur elle-même pour cause de crise économique mondiale, Dominique Moisy ?
Non, non. Je crois que ce schéma ne me paraît pas envisageable. De même que le retour de l'Amérique à des formes classiques de protectionnisme me paraît une inquiétude très exagérée. Nous avons tiré les leçons de la crise de 1929. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Alors il y a d'autres formes de protectionnisme que l'érection de barrières douanières. Il y a les subventions à ces industries majeures que sont le secteur automobile, etc. Mais la vraie question, me semble-t-il, c'est effectivement que le monde hésite face à l'Amérique, et en particulier l'Europe. Est-ce que nous souhaitons que l'Amérique garde le rôle central qui a été le sien et qu'elle agisse davantage? Ou est-ce que nous en avons peur? La question du Moyen-Orient et la question centrale du conflit israélo-palestinien a été fort justement mentionnée. À Washington, aujourd'hui, on entend circuler des plans spectaculaires avec l'idée que si l'Amérique veut reprendre l'initiative au Moyen-Orient, et ne pas se contenter d'une approche défensive visant à limiter les dégâts en Irak, en Afghanistan, vis-à-vis de l'Iran ou même jusqu'au Pakistan, eh bien elle doit faire l'inverse de ce qu'elle a fait sous l'administration Clinton et sous l'administration Bush, c'est-à-dire se concentrer sur le conflit israélo-palestinien. Et alors il y a un plan un peu fantasmagorique qui est dans les tiroirs, qui serait au fond le retour à 77, le voyage de Sadat à Jérusalem, avec l'idée que le président nouvellement élu, fort de son prestige international, arriverait dans les territoires, Jérusalem et Ramallah, accompagné du roi d'Arabie Saoudite, du roi de Jordanie, du président Moubarak, et qu'ils imposeraient la paix aux acteurs affaiblis sur le terrain que sont les Israéliens, sans gouvernement clair, les Palestiniens divisés en deux, selon les lignes du plan Abdallah, en disant voilà, maintenant vous avez assez joué, et ce serait une victoire extraordinaire face aux Iraniens, face aux Hezbollah, face aux extrémistes. Alors, ce plan est d'une rationalité extrême. Il suppose des conditions qui ne sont pas réunies. Pour le moment, il fait rêver et il fait sourire. Et il est raisonnable de ne pas l'attendre.
Il fait sourire même dans ce studio. Alors très rapidement, avant notre première coupure, Karim Emile Bita.
Je pense pour que cela ait une chance de réussir, il faut que l'Amérique parvienne, au-delà du réajustement des politiques, à sortir du carcan idéologique qui a été imposé au cours des dernières années. Plusieurs carcans, par exemple cette guerre globale contre le terrorisme, bien évidemment qu'il faut lutter contre le terrorisme, et cette notion d'une guerre globale contre le terrorisme emprisonne et empêche de réfléchir à des solutions plus fines de tel ou tel dossier. Le terrorisme est avant tout une tactique qu'on ne peut pas combattre en lui déclarant la guerre officiellement. Par ailleurs, cette notion permet d'amalgamer toutes sortes de mouvements qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, donc ça obscurcit les visions. Donc il faudra s'émanciper tout d'abord de cette vision idéologique profonde, ce combat contre... C'est un peu comme dans Moby Dick, on poursuit quelque chose de pas très bien identifié, on ne sait pas très bien ce que c'est, et on finit par se consumer soi-même. Il faudra également en finir avec tous ces dogmes qui ont orienté la politique extérieure des États-Unis depuis une trentaine d'années, cette idée qu'il leur impose d'apporter la démocratie, la liberté, les lumières au reste du monde. Hier, le nouveau prix Goncourt afghan, Atiq Raimi, rappelait à très juste titre qu'en 1959, il y a 50 ans, l'Afghanistan était déjà une démocratie certes imparfaite, mais il y avait des scrutins, les femmes étaient beaucoup plus libres qu'aujourd'hui. L'Iran a également connu des tentatives de démocratisation assez poussées dans les années 50. Donc il ne faut pas partir de cette idée que c'est les États-Unis qui vont venir imposer le bien, sortir de ces vieux fantasmes orientalismes qui continuent de prévaloir à Washington. À ce moment-là, si on en sort, on pourra tout à fait être très ambitieux et mettre en place ce projet dont a parlé Dominique Moïse.
On poursuivra Géopolitique, le débat consacré aux orientations de Barack Obama à chemin entre son élection et son installation à la Maison-Blanche. Nous retrouvons nos invités Dominique Moïse, Philippe Golub et Karim Emile Bitar dans une dizaine de minutes, juste après le prochain journal sur RFI. À tout de suite. I went to sleep last night, tired.